Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, en partenariat avec le journal Libération, Affaires Sensibles vous propose de redécouvrir l'affaire des foulards en France à la fin de l'année 1989. Il y a 3 mois, en février, c'était la chanteuse Ménel qui quittait The Voice pour des propos sur Twitter très limites après les attentats. Il y a 2 semaines, c'est Marianne Pouchetou, présidente de l'UNEF, qui faisait polémique en apparaissant voilée lors d'une interview sur M6. Ainsi, à intervalles réguliers, la polémique surgit et ressurgit. À chaque fois ou presque, elle concerne l'islam. À chaque fois ou presque, elle prend corps au sein de l'institution scolaire. En France, la première affaire de ce type éclate donc en 1989, en octobre. D'un fait divers, l'exclusion de 3 collégiennes de leur école parce qu'elles refusent de retirer leur foulard en classe. La polémique enfle et prend une ampleur nationale. 2 camps se font face et il faut se positionner. Faut-il, oui ou non, autoriser le port du voile à l'école publique? De cette question initiale, le débat s'étend. Place réservée aux femmes musulmanes, intégration, menace islamique, immigration. La boîte de Pandore est ouverte. Parce que la manière dont cette affaire surgit découle fortement de sa médiatisation. Si bien qu'au final, derrière ce foulard, c'est la société française dans son ensemble qui s'interroge et semble découvrir circonspecte les musulmans qui la composent. Avec cette affaire se pose également la question de la laïcité, la question consubstantielle à notre République parce qu'elle emporte les valeurs, question forcément sensible, passionnelle et toujours en quête de sens. Notre invitée aujourd'hui, Bernadette Sauvager, journaliste à Libération, notre partenaire et spécialiste des questions religieuses. Vous entendrez également le reportage d'Annaëlle Verzeau qui s'est rendue à Nice en 2015 où elle a assisté à l'audience d'un procès opposant une femme musulmane voilée à la directrice d'un établissement scolaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et avec Libé aujourd'hui, préparée par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
14 février 1989, Téhéran, capitale de l'Iran. L'ayatollah Khomeini, guide spirituel de la révolution islamique qui a renversé le Shah 10 ans auparavant, lance un appel. Il demande, je le cite, à tous les musulmans du monde d'exécuter rapidement l'auteur et les éditeurs du livre où qu'ils se trouvent. On appelle ça une fatwa, une condamnation à mort, en fait émise par l'autorité religieuse et politique iranienne à l'encontre d'un écrivain, en l'occurrence, et l'auteur en question, c'est Salman Rushdie, pour ses versets sataniques. L'écrivain britannique d'origine indienne a publié quelques mois plus tôt son 4e nouveau roman. Dans le chapitre 2 de cet ouvrage, il revient sur un épisode hypothétique de la vie de Mahomet. Lors de son arrivée à la Mecque, le prophète aurait, dans un premier temps, autorisé d'autres divinités que le seul Dieu, le Dieu unique, avant toutefois de se rétracter. La véracité de ces faits est largement contestée par les historiens et par les croyants. Le livre est alors jugé par de nombreux musulmans comme parodique, mais surtout blasphématoire. Alors que l'ouvrage n'est pas encore publié, l'affaire prend corps d'abord en Inde, où un député musulman du Parlement de Delhi parvient à interdire sa sortie. En Grande-Bretagne, des manifestations éclatent, notamment le 14 janvier à Bradford, où des milliers de personnes manifestent et brûlent l'ouvrage. Les images du livre en feu font le tour du monde, si bien que le 12 février 1989, à Islamabad, capitale du Pakistan, une dizaine de milliers de personnes tentent de prendre d'assaut le centre culturel américain. Lors de cette attaque, 5 personnes sont tuées et 100 blessées. C'est à la suite de ces événements que l'ayatollah Khomeini lance sa fameuse fatwa et donne une résonance internationale et politique à l'affaire. Le cas Salman Rushdie est relayé par les informations françaises. Il faut dire que le contexte dans le pays est doublement marqué. D'abord par les récents attentats de 1986 devant le magasin Tati de la rue de Rennes. Ensuite parce que la France, en 1989, est en pleine commémoration du bicentenaire de la Révolution. Pendant 1 an, on y fête en grande pompe la République et l'un de ses principes fondateurs, la laïcité. Alors au moment de la présentation de l'affaire Rushdie, la grille de lecture est posée, voire imposée.
Bonsoir. Cette fois, c'est tout l'islam qui s'embrase. Il aura suffi d'un petit livre écrit par Salman Rushdie, un Britannique d'origine indienne, pour que l'on prenne conscience de l'immense fossé qui sépare 2 mondes. D'un côté, celui des Occidentaux, le nôtre. Et de l'autre côté, celui de l'islam. 1 milliard d'hommes menés par une religion stricte. Dans l'affaire Rushdie aujourd'hui, c'est le djihad islamique qui réapparaît. C'est lui qui détient des otages au Liban. C'est lui qui aujourd'hui veut venger ce qui offense l'islam.
Le choc des civilisations, déjà. La tolérance voltairienne face à l'obscurantisme religieux. En France, c'est autour de cet événement que l'islam s'invite sur les plateaux de télé. La religion musulmane fait l'actualité. L'idée de communauté musulmane de France naît médiatiquement à ce moment précis. Et quelques mois plus tard, le scandale international causé par le livre de Salman Rushdie trouve son reflet national. Ce sera à Creil en octobre 1989. Lundi 18 septembre 1989, 8h. Comme chaque matin, sur le plateau Rouer, en banlieue de Creil, le cortège des collégiens s'avance. Ils descendent pour la plupart des HLM juchés sur les hauteurs sud de la ville picarde. La joyeuse troupe se dirige doucement vers le collège Gabriel Havès, typique de ces établissements classés ZEP, qui compte 800 élèves de 25 nationalités différentes, la plupart issus d'un milieu populaire. La sonnerie retentit, on se met en rang, prêt à entrer en classe. Mais ce jour-là, trois jeunes filles n'assisteront pas au cours. Elles s'appellent Fatima et Leila Achaboun, respectivement 13 et 14 ans, en classe de 4e, et Samira Saïdani, 15 ans, élève de 3e. Les deux sœurs sont françaises d'origine marocaine. Samira, elle, est d'origine tunisienne. Mais elle porte un foulard noué à l'arrière du cou qui leur cache les cheveux. Sur décision du principal de l'établissement, Ernest Chénière, elles sont exclues du collège. Pour justifier sa décision, le chef d'établissement adresse une lettre aux parents dans laquelle il explique « Notre objectif est de limiter l'extériorisation excessive de toute appartenance religieuse ou culturelle. Je vous prie de leur donner la consigne de respecter le caractère laïque de l'établissement. » Mais les parents et les jeunes filles refusent. Alors la situation s'enlise et du coup la presse s'y intéresse. Le 4 octobre, un premier article est publié dans le journal Libération sous le titre « Le port du voile heurte la laïcité du collège de Creil ». Alors, on tend caméra et micro, le proviseur est interrogé et d'emblée, il élargit le problème au-delà du simple port du voile.
Le problème n'est pas, monsieur, d'un simple voile. Il s'agit de l'affirmation abrupte d'une appartenance religieuse. Et je peux vous dire que cela génère déjà des conflits entre les élèves. J'ai à déplorer par exemple que des militants islamistes soient venus aux abords du collège pour distribuer des tracts et puis remettre à nos petits élèves de 13 ans, 12-13 ans, des pétitions à faire signer en cours pour obtenir l'agrandissement de la mosquée. Nous nous disons que ce type de comportement contrevient à la laïcité de l'établissement et est de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'établissement.
Du côté des parents, c'est l'incompréhension. Après tout, leur fille porte le foulard depuis plusieurs années sans que cela n'ait jamais posé le moindre problème. Oui, mais là, quelque chose s'est brisé. Les médias s'emparent de l'affaire. Le lendemain de l'article de Libération, le 5 octobre 1989, Antenne 2 et le Nouvel Observateur animent une grande émission intitulée « L'histoire immédiate ». Présentée par Jean-Claude Guibaud et Daniel Lecomte, elle s'intitule « Faut-il avoir peur des croyants ?» Sujet alimenté par la récente affaire du foulard. Le débat s'ouvre sur l'intégrisme religieux, les menaces qu'il représente pour la laïcité. L'émission donne un écho national aux trois jeunes filles de Creil. La machine est lancée. Sauf qu'après plusieurs semaines de tractation entre l'établissement et les parents d'élèves, un compromis est trouvé. Les jeunes filles auront le droit de porter le voile dans l'enceinte de l'établissement, mais elles devront l'enlever pendant les cours. Le père de Fatima et de Leila Achaboun dit son soulagement, mais aussi son agacement face aux soupçons d'intégrisme.
Oui, je crois que c'est bien. Dès le moment où mes filles vont commencer à apprendre les cours, c'est ça qui est très important pour moi, pour qu'elles commencent à apprendre. Même si pour eux, c'était un petit peu difficile, cette histoire de l'intégrisme. Moi, je ne connais pas ce que c'est l'intégrisme. Je suis un simple musulman comme tout le monde, c'est tout. C'est clair, si vous voulez. Vous, tout seul, vous allez comprendre que l'intégrisme, ça n'existe plus chez moi.
Le 9 octobre, les trois jeunes filles reprennent donc le chemin de l'école. Elles ont reçu le soutien de plusieurs associations, parmi lesquelles la Ligue des droits de l'homme, le MARAP et SOS Racisme. Le positionnement de ces trois associations témoigne de la difficulté pour les différents acteurs de la société civile de s'exprimer sur l'affaire. La laïcité est au cœur de leur action et pourtant, c'est au nom de la lutte contre les discriminations qu'elles se positionnent en faveur des jeunes filles. La prise de parole du ministre de l'Éducation de l'époque, Lionel Jospin, traduit aussi la difficulté politique de cette affaire. Ce n'est pas un hasard si dans sa déclaration, il commence par pointer du doigt l'emballement médiatique.
D'abord, je voudrais quand même dire que ces affaires sont limitées. C'est-à-dire que de nombreux enfants d'immigrés ou d'origine par ailleurs confessionnelle différente sont accueillis par les écoles, et notamment par l'école publique, sans problème. Et j'ai envie d'ajouter une deuxième chose. Je ne suis pas sûr. Bon, on a posé des questions de principe, c'est sûrement utile, mais je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à braquer les médias à chaque fois qu'il y a une petite fille qui va avec un foulard sur la tête dans une école. J'ai l'impression qu'il faut traiter ces problèmes avec calme et avec discrétion. Si à chaque fois on en fait une affaire nationale, on ne nous aidera peut-être pas à les résoudre.
Non, mais il y a des principes de base, par exemple, pour l'école, la laïcité. Viens.
Non, mais hein? Ces remarques, à mon avis, étaient utiles.
D'accord.
Hein, parce que je connais bien les tentations. Laissons ces problèmes se régler là, ils doivent être réglés. Alors, les principes. Ben, je crois qu'il y a la laïcité. La laïcité, c'est à la fois la tolérance, alors on peut dire, mais c'est la tolérance de la diversité des religions, éventuellement de l'expression par des signes extérieurs de cette diversité. Mais c'est aussi la neutralité, en tout cas à l'école. À l'école, le principe, c'est la neutralité religieuse. On ne doit pas afficher de façon spectaculaire son zèle religieux, parce que sinon, on sépare l'école. Moi, je suis quand même attaché à cette neutralité, à cette laïcité, donc je dis... Il ne faut pas afficher à l'école les signes des différences religieuses.
Donc pas de foulard, par exemple.
Ça voudrait dire ça. Mais je mets avant cela... Non mais écoutez, j'explique une situation complexe, absolument. Et donc je le fais simplement, mais ça prend un petit peu de temps. Mais je mets au-dessus de ça un autre principe, qui est que l'école, en France, doit accueillir tous les enfants.
Que de prudence. Pour beaucoup, la position du ministre n'est pas très claire. En tout cas, on pensait l'affaire résolue, mais elle ne fait que commencer. La Croix, Le Monde, Le Figaro, tous les grands quotidiens nationaux consacrent plusieurs pages au sujet. L'Express et le Nouvel Observateur habillent leur une de femmes voilées. On décortique le Coran. Dans la précipitation, on ne sait plus trop quel terme employer. Alors, on parle tour à tour de foulard islamique, de voile coranique ou de l'affaire des tchadors. Cette dernière expression, d'ailleurs, est particulièrement symptomatique. Le tchador renvoie directement à la révolution iranienne et à l'obligation votée par Khomeini en 1979 pour toutes les femmes de se couvrir d'un long voile noir. Mais rien à voir avec le hijab porté par les collégiennes. Les chaînes de télévision envoient des reporters dans toute la France relever des cas similaires. Et quand on cherche, on trouve. L'affaire de Creil fait alors tache d'huile. À Marseille, Avignon, Montpellier, Poissy, des jeunes filles sont exclues de collège et de lycée parce qu'elles portent un voile. Le 19 octobre, rebondissement. Leïla, Fatima et Samira rompent l'accord et se rendent de nouveau en classe avec leur foulard. Elles sont immédiatement exclues de cours et installées dans la bibliothèque de l'établissement. Cette fois, les caméras de télé sont sur place. Au journal télévisé, le sujet commence par une course-poursuite entre les ruelles des HLM jusqu'au logement des Achaoun. Les journalistes arrivés sur place interrogent successivement le père et les jeunes filles pour comprendre ce revirement. Ce sera d'ailleurs l'un des rares temps de parole accordés au principal protagoniste de l'affaire.
Est-ce qu'elles vont garder le foulard ou pas?
C'est à eux de décider, c'est pas moi. Si elles veulent l'enlever, elles l'enlèvent. Si elles veulent le garder, moi je ne les obligerai jamais. Ça, je vous le dis. Je les ai obligés une fois, mais je ne recommencerai jamais.
Donc, en fin de compte, vos enfants vont continuer à porter donc le foulard en
voilà,
classe
jusqu'à nos valeurs.
Jusqu'à nos valeurs.
De la République.
D'accord.
De la justice, si vous voulez.
Vous allez continuer à garder donc le foulard en classe.
Oui.
Oui. Oui. Jusqu'à quand?
Jusqu'à ma mort. Je le garderai pour toujours. J'enlèverai jamais. Chacun fait sa religion, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne crains de personne, je crains que de Dieu. Ça y est.
Et vous ne pensez pas que ça perturbe votre éducation? Vous ne pensez pas que ça perturbe votre éducation?
Non, c'est de mes habits. Voilà. Ça partait de mes habits.
Après cette décision, deux événements majeurs donnent une toute autre dimension à la polémique. Le premier, c'est une prise de position, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de celle de la première dame, Danielle Mitterrand, qui prend la défense des trois collégiennes.
On est en 1989. La laïcité a pris tout son essor à cette époque. Ça a été vraiment une des grandes gloires de la Révolution. Si aujourd'hui, 200 ans après, la laïcité ne pouvait pas accueillir toutes les religions, toutes les expressions en France, alors qu'il y aurait un recul terrible. Et si le voile est l'expression d'une religion, nous devons accepter les traditions telles qu'elles sont.
Si les principaux acteurs religieux ont plutôt apporté leur soutien aux jeunes filles et que les associations d'enseignement et les syndicats ont naturellement pris position en faveur du principal du collège, du côté des politiques, c'est silence radio. Alors la prise de position de Daniel Mitterrand ne manque pas de faire réagir. Largement relayée par la presse, elle est vivement critiquée à droite comme à gauche. Surtout que quelques jours plus tard, un second événement survient. La Voix de l'Islam, une association musulmane qui s'est fait connaître lors de l'affaire Salman Rushdie par l'organisation d'une marche contre l'œuvre de l'écrivain, oui, contre l'œuvre, met en place une manifestation pour défendre le port du voile à l'école. De Barbès à République, un millier de manifestants défilent. En tête de cortège, les femmes prennent la parole pour défendre le port du voile.
On ne m'oblige pas, ce n'est pas pour mon mari, ce n'est pas pour qui que ce soit, c'est pour Dieu que je le fais. Je suis libre. Pour moi, mon voile, c'est ma liberté. Donc, je suis une femme libre. C'est un devoir religieux, le voile.
Vous pensez qu'en France, l'éducation laïque va accepter, suite à cette manifestation, que les jeunes filles portent le voile partout ?
Justement, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. C'est est-ce qu'on parle en France d'école laïque ou d'élèves laïques ? Des nuances quand même. Moi, je pensais que l'école laïque, c'était effectivement l'endroit où il n'y aurait pas un cours de religion en particulier ou des professeurs qui essaieraient d'inculquer une religion quelle qu'elle soit à leurs élèves. C'est très bien, parce que c'est comme ça qu'on peut s'asseoir dans le même salon de cours, des musulmans avec des athées, avec des juifs ou des chrétiens ou autres. C'est ça l'école laïque, c'est d'être libre justement de croire sans être choqué par un cours en particulier parce que ce n'est pas ma religion, donc qu'est-ce que je fous là ?
La manifestation provoque la levée de boucliers des principaux médias. Antenne 2 dénonce le caractère intégriste des participants et se félicite du faible succès du rassemblement. Quant au journal Le Parisien, il publie quelques jours plus tard une enquête intitulée « Le Hezbollah tire les ficelles ». Il se trouve que l'un des principaux leaders de la manifestation, c'est un certain Mohamed Mouhadjer, soupçonné dans les attentats de 1986 et proche de l'organisation politique chiite. De là à supposer une manipulation de l'Iran sur l'affaire des foulards pour déstabiliser la France, il n'y a qu'un pas que le quotidien franchit, au conditionnel bien sûr, mais franchit quand même. L'affaire des foulards devenue tchador se transforme alors en pieuvre islamique, en péril vert, en islam aux portes de l'Europe. La classe politique doit prendre position, c'est son rôle. Et d'ailleurs ça tombe bien, car les vacances scolaires arrivent.
From me.
25 octobre 1989, Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. La tension est grande, les caméras sont installées, les flashs crépitent. À une centaine de kilomètres, donc à Creil, la situation, elle, n'est toujours pas réglée. Les trois collégiennes n'ont pas regagné les salles de classe. Le ministre de l'Éducation, Lionel Jospin, est questionné à plusieurs reprises sur le sujet. Et il maintient sa position.
Si se produisent comme se sont produits des cas de blocage, c'est-à-dire d'enfants qui vont à l'école, notamment, mais ils ne sont pas les seuls, il y a aussi d'autres signes religieux actuellement présents à l'école, mais notamment avec un foulard sur la tête, je préconise que les directeurs d'établissement et les enseignants disent à ces enfants et à leurs parents qu'ils ne doivent pas venir à l'école dans ces conditions. S'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir ces enfants.
La déclaration du ministre provoque une tempête au cœur de l'hémicycle. En signe de protestation, alors que le règlement l'interdit, les députés de droite enlèvent leur veste. Au moins, ils ne la retourneront pas. Même dans son propre camp, la position de Lionel Jospin est critiquée. Edmond Vacan et Jacques Lavédrine, deux députés socialistes, débarquent dans le salon des quatre colonnes avec un foulard sur la tête. D'autres socialistes n'hésitent pas à afficher ouvertement leur désaccord.
Je crois qu'il faut être beaucoup plus convaincant que cela et pas, dès le départ, annoncer qu'on renonce. Et je crois que les principes de la laïcité doivent être défendus avec acharnement. Il ne faut pas baisser les bras. Je crois que ce débat vient de la réaction d'un certain nombre d'amis qui ne comprennent pas que nous avons affaire, en l'occurrence, à une provocation.
Et le ministre, eh bien, il gère cette contradiction au mieux, mais sans donner satisfaction ni à un camp ni à un autre, c'est très clair. Mais je crois que cette contradiction, c'est une contradiction très forte qui va traverser non seulement l'école, mais toute la société française.
La sphère politique est partagée, les clivages classiques, droite-gauche, sont brouillés. Et puis à gauche, on est gêné, car la laïcité est au cœur de l'histoire de la gauche et de son projet politique. Mais cette affaire stigmatise la population musulmane, alors. Michel Rocard, le chef du gouvernement, ne prend pas la parole pour soutenir son ministre de l'Éducation. Un silence en signe de désaveu. À droite, malgré quelques voix en faveur de Lionel Jospin, la plupart des membres de l'opposition sont vent debout et dénoncent le laxisme du ministre, genre « c'est la République qui capitule ». Lionel Jospin et ses soutiens sont immédiatement taxés d'anti-laïques, voire d'anti-républicains. L'occasion d'attaquer le gouvernement socialiste est trop belle. Enfin, pour l'extrême droite, cette affaire est un boulevard sur lequel Jean-Marie Le Pen, le leader du Front National, s'empresse de rouler.
Aujourd'hui, la revendication dont il est question avec le tchador, dont il est question avec les mosquées, est une revendication des islamistes étrangers. Étrangers qui désirent conserver leur qualité culturelle, religieuse et même politique d'étrangers. Je suis obligé de constater que Jox et Jospin, qui il y a 100 ans eussent été... les chevaliers noirs de la République, les hussards noirs de la République, ont aujourd'hui capitulé devant les exigences de la portion la plus extrémiste de l'islam.
Attaqué à droite, critiqué à gauche, Lionel Jospin voit la pression monter d'un cran avec l'entrée des intellectuels dans le débat. Depuis le début de l'affaire, les tribunes se sont succédées dans les journaux, les magazines et sur les plateaux de télé. Mais un article en particulier augmente la pression sur le ministre. C'est le Nouvel Observateur qui, le 2 novembre 1989, publie une lettre ouverte signée par 5 philosophes, parmi lesquels Régis Debray, Elisabeth Badinter et Alain Finkielkraut. Elle appelle les enseignants à désobéir à la consigne du ministre. Le ton employé dans l'article traduit l'ampleur du débat sur la scène hexagonale. L'avenir dira si l'année du bicentenaire aura vu le Munich de l'école républicaine, peut-on lire. Accepter les jeunes filles voilées en classe et comparer au laisser-faire des démocraties occidentales face à Hitler, rien de moins. On n'hésite pas à comparer les foulards de Creil à l'affaire Dreyfus. Et le débat dépasse le cadre strict de la laïcité. Question de la femme, de l'intégrisme religieux, de l'intégration de la communauté musulmane dans la société française. Le champ des enjeux s'élargit. Alain Finkielkraut s'en explique au micro de France Inter et revient sur le lien direct entre l'affaire Salman Rushdie et celle des foulards.
Écoutez, moi je trouve que cette affaire est exemplaire et qu'il est heureux qu'elle donne lieu à un débat national, qu'enfin tout le monde joue carte sur table. Elle est exemplaire d'un problème qui est celui très grave, très réel, et sur lequel on ne peut plus, si vous voulez, se leurrer, qui est celui de l'intégrisme. crois qu'il faut mettre cette affaire en relation avec l'affaire Rushdie. À mes yeux, l'affaire Rushdie est aussi importante pour le siècle à venir qu'a été l'affaire Dreyfus pour le nôtre. L'affaire Rushdie situe, désigne ce que va être la barbarie future. Il me semble qu'il y a quelque chose du même ordre ici, dans la mesure où sont refusées, avec la plus extrême véhémence, les règles élémentaires de la laïcité. Je crois que cette affaire met l'accent au moins, sur deux choses. D'une part, le très réel problème posé par l'intégrisme, et d'autre part, l'extraordinaire faiblesse actuelle de la pensée des droits de l'homme.
Acculé, Lionel Jospin, le ministre de l'Éducation, décide le 4 novembre de saisir le Conseil d'État. Pour les uns, il botte en touche. Pour les autres, en privilégiant le juridique face au politique, il fait preuve de sagesse républicaine. Lionel Jospin reçoit enfin le soutien de son premier ministre, Michel Rocard. L'attente de la décision du Conseil des sages ne suspend pas pour autant la polémique. Les statistiques et les sondages se multiplient. 75% des Français interrogés sont contre le port du voile à l'école. Alain Juppé, secrétaire général du RPR, profite de l'affaire pour remettre en cause la politique d'immigration du gouvernement. Dans la foulée, les intellectuels embrayent. Et à la fin du mois de novembre 1989, deux événements changent la donne. Le premier tombe comme un coup de massue. Le 26, les candidats du Front National aux élections législatives partielles de Dreux et de Marseille atteignent des scores étonnamment hauts. Marie-France Tirebois recueille plus de 60% des voix au second tour à Dreux. On en conclut que le problème de l'immigration révélé par l'affaire des foulards de Creil parle aux Français. Le lendemain de ces résultats, le 27 novembre, le Conseil d'État rend son verdict. Il estime que le port du foulard islamique en classe n'est pas incompatible avec le principe de laïcité. Il laisse aux enseignants le choix de régler les problèmes particuliers dans leur établissement. Le Conseil des sages valide la position tenue depuis le début par Lionel Jospin. « On revient donc au point de départ », s'exclament les défenseurs de la laïcité et les adversaires du voile. « Tout cela ne fait que repousser le problème », estime-t-on. Dans la foulée, le ministre rédige une circulaire dans laquelle il reprend les grands principes énoncés par le Conseil d'État. Finalement, à Creil, le 2 décembre, les deux sœurs, Leïla et Fatima, se présentent non voilées en classe. On apprendra plus tard qu'elles ont été convoquées avec leur père par le consulat du Maroc à Paris et que c'est le roi Hassan II en personne qui les aurait convaincues de ne plus porter leur foulard à l'école. L'affaire de Creil est donc résolue. Mais depuis quelques semaines, déjà, l'étincelle est devenue foyer, le feu s'est répandu. De concert, tous les responsables politiques abordent la question de l'immigration, au premier rang desquels le Parti Socialiste au pouvoir. Invité à l'émission 7 sur 7, Michel Rocard, le Premier ministre, insiste sur ce point.
Par rapport à un certain nombre d'autres pays, c'est vrai que nous avons moins de réfugiés en pourcentage de la population. Seulement tout ça, c'est de l'abstraction. Les réfugiés, c'est pas une quantité statistique, c'est des hommes et des femmes qui vivent à Vénissieux, au Minguette, à Villeurbanne, à Chanteloup ou à Mantes-la-Jolie. Et là, il se passe des choses quand ils sont trop nombreux et qu'on se comprend mal entre communautés. C'est pourquoi je pense que nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique, mais pas plus. Il faut savoir, le chiffre n'est pas encore public, je peux le donner aujourd'hui, qu'en 1988, nous avons refoulé à nos frontières 66 000 personnes, 66 000 personnes refoulées aux frontières. À quoi s'ajoute une dizaine de milliers d'expulsions depuis le territoire national. L'année 1988, et je m'attends à ce qu'en 1989, l'année n'est pas finie, les chiffres soient un peu plus forts. Autrement dit, je ne peux laisser personne dire que rien ne se fait. Cette politique est dure, il n'est pas question qu'elle soit médiatisée, mais nous devons le faire pour maintenir la cohésion de la société française et pour pouvoir insérer dans des conditions décentes ceux des immigrés qui sont chez nous en situation régulière.
L'affaire du foulard s'est transformée en problématique migratoire. L'impératif de laïcité est devenu en quelques mois gestion de l'immigration. Resté en suspens juridique, le problème du voile à l'école est relancé en 1994 par François Bayrou, ministre de l'Éducation du gouvernement Balladur. Une nouvelle circulaire est publiée. Elle distingue les symboles discrets autorisés des symboles ostentatoires interdits. pour finalement aboutir à une loi en 2004 qui stipule l'interdiction de tout port de signes religieux visibles. À chaque fois, le débat ressurgit, et à chaque fois, bien qu'ils s'en défendent, des acteurs ciblent le voile et par voie de conséquence la religion musulmane. À tel point qu'on se demande parfois si à force de rappeler que l'islam est la deuxième religion de France, l'obsession islamique ne serait pas devenue la première des obsessions.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire du voile à Creil avec notre invitée Bernadette Sauvager. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération, notre partenaire, et auteur de documentaires. Vous êtes spécialiste des questions religieuses depuis une douzaine d'années. Alors, vous avez travaillé pour l'hebdomadaire protestant Réforme, puis pour le journal Libération, et aujourd'hui encore. Et vous avez publié, alors, deux livres sur François le Pape. Le Monde selon François, c'était en 2014, hein, oui, aux éditions du Cerf, et le Pape du Peuple, toujours aux éditions du Cerf, oui, c'était un an plus tard. Puis alors, il me semble qu'il y a un livre en préparation sur autre chose, c'est cela?
Absolument, oui.
On peut le dire ou...
Oui, oui, sur l'affaire Tariq Ramadan, qui est la grande affaire de l'après Weinstein en France, qui agite beaucoup les milieux musulmans et au-delà.
Absolument. Alors, depuis la première diffusion de cette émission, je le rappelle, en mai 2015, le problème que pose encore le voile fait à nouveau la une, hein, comme si rien n'avait été dit penser, discuter, régler, comme si la sensibilité de l'opinion relayée par les médias était encore aussi forte qu'en 1989, lors de l'histoire des foulards de Creil. Dernièrement, je le rappelle, de nouvelles histoires liées au voile musulman sont venues en titre de la presse. Il y a eu l'affaire Menel, que je résume, Menel Ibitsem, candidate à The Voice sur TF1, a finalement quitté l'émission en février, au cœur d'une violente polémique, née après l'exhumation par certains internautes d'anciens messages postés sur son compte Facebook, après les attentats survenus à Nice et à Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016. Menel avait tweeté « Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement ». Évidemment, ça a créé pas mal d'émotions. Puis tout récemment, la polémique sur le voile de la responsable de l'UNEF à la Sorbonne, Mariam Pougerou, interviewée par M6, a provoqué une avalanche de réactions de Rokhaya Diallo, militante antiraciste qui la défend, jusqu'à Julien Drey, cofondateur de SOS Racisme en 1984 et de l'UNEF ID en 1980, qui ne comprend plus la direction de l'UNEF aujourd'hui. Et nous assistons à un nouveau débat à gauche, chacun utilisant les idées antiracistes pour son argumentation. Voilà, c'était un peu long, mais je voulais rappeler tous ces éléments en résonance de ce que nous venons d'entendre. Que pensez-vous de ce débat dans sa dimension sans cesse recommencée, récurrente, comme si on n'avait rien fait, comme si on n'avait pas réfléchi?
Effectivement, on peut dire que ça dure depuis un quart de siècle, quasiment, presque même 30 ans. Ça interroge. Je crois que d'abord il faut placer ça dans un contexte un peu plus global. C'est que la question religieuse est toujours à vif en France. C'est un peu une spécificité française. C'est qu'il y a une espèce de en tous les cas de conflit latent entre une partie de la société française et la religion. Donc voilà, et que on est en plus par rapport à l'islam, j'aime à dire moi dans une circonstance historique exceptionnelle, c'est-à-dire que on est là face à une question qui est d'intégrer au sein de la communauté nationale d'une nouvelle religion. C'était pas arrivé depuis l'arrivée du christianisme mongol. Donc évidemment, ça bouscule, ça interroge et ça polémique. Je crois que c'est inévitable. Ça bouscule, on va dire, de ce côté-ci de la société française, mais ça bouscule aussi les populations maintenant issues d'immigration, qui sont des populations françaises,
bien sûr,
pour une grande part, dans leur pratique, c'est-à-dire que l'islam est aussi confronté à une situation inédite. Je crois que chacun est confronté à une situation inédite.
Vous voulez dire par rapport au djihad, à l'islamisme politique, aux attentats,
alors, au terrorisme ? Se mêle à cette circonstance historique,
ça devient prégnant aussi,
exceptionnelle et inédite de l'intégration sur le sol national, d'accord, d'une nouvelle religion, un contexte géopolitique extrêmement compliqué, d'un affrontement entre le monde musulman
civilisationnel, c'est ça.
Moi, je suis pas de ceux qui croient ça, mais en tous les cas, mais en tous les cas, moi, je suis pas sur ce mode-là, mais en tous les cas, des frictions et plus que des frictions entre l'Occident et une autre partie du monde, où globalement, c'est plutôt la référence est la religion musulmane.
Alors. Ça, c'est pour, effectivement, aujourd'hui, mais en résonance, l'histoire de 89, elle arrive au moment de l'affaire Salman Rushdie. Oui. Et ça, c'est important, parce que ça crée un climat.
Absolument, mais je crois qu'en fait, c'est l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam politique. Hein. Les deux grandes dates, ça va être la révolution iranienne, et puis après, la guerre civile en Algérie, hein, qui font émerger et qui font...
Années 90.
Et c'est ces deux grandes dates où l'islam politique, l'islam islamiste...
devient force politique.
L'islam devient force... Enfin, se revendique et s'incarne. Ça, 79, c'est... s'incarner, va s'incarner. Donc effectivement, je pense que et Salman Rushdie arrive dans ce contexte-là. Je crois que ça a avivé cette histoire du voile. Et puis faut pas oublier non plus que la querelle scolaire, la question scolaire, elle a été aussi au cœur des oppositions entre l'Église catholique et la République au XIXe siècle. Donc, dès qu'il est question d'éducation, dès qu'il est question d'enfance, etc., c'est tout de suite polémique. Donc, on peut faire aussi le parallèle. L'enjeu de la question scolaire, il était au centre des débats sur la laïcité, sur la séparation des Églises et de l'État.
Et jusqu'à maintenant, souvenez-vous de la guerre, ce qu'on avait appelé la guerre scolaire de 1984.
Absolument. C'est une question extrêmement, extrêmement sensible. La religion, religion, éducation, religion, école, c'est aussi. Alors, je crois que ce qui se passe là réveille tous ces fantômes, tous ces fantômes de l'histoire de France.
Ça nous invite peut-être à mieux réfléchir sur le concept de laïcité. Alors c'est vrai que c'est un concept multidimensionnel, laïcité, à la fois pratique, philosophique, religieuse, politique. Ouais. Et parfois nos concitoyens ont du mal à s'y retrouver. Et puis il y a des déclarations politiques qui brouillent encore les pistes. Je pense à Nicolas Sarkozy qui, à Latran, avait dit la laïcité positive. La laïcité n'a pas à être positive ou négative, elle doit être laïque. Donc c'est compliqué pour les gens quand même, tout ça. Comment mieux redéfinir la laïcité par rapport à la République, et avec moins de passion. Est-ce que c'est possible?
Moi, j'aime bien qu'il y ait du débat. Alors après, ça...
quand je dis débat, bien sûr, la démocratie doit générer du débat, parfois passionnel jusqu'à l'affrontement, là, c'est bien plus
compliqué. Faut pas qu'il soit stérile, en tous les cas. Voilà, je crois que quand on constate que depuis 30 ans, on débat de la question du voile, on commence à se demander si c'est pas un débat, effectivement, stérile. Je crois que la laïcité, ça recouvre plusieurs réalités. La laïcité, c'est d'abord un système juridique. Oui. C'est des lois. Donc c'est un système juridique. Mais c'est aussi, Emmanuel Macron le rappelle très souvent, c'est aussi une question philosophique. Et là, effectivement, du coup, une question philosophique et politique. Et donc là, il y a débat sur ce qu'on y met. Grosso modo, moi je dis, et je pense qu'il y a un consensus sur le fait que l'État, la République est laïque. Donc, neutralité de l'État. Donc, on voit bien, les fonctionnaires n'ont pas le droit de porter le voile, etc. On a neutralisé, religieusement, les établissements scolaires publics, avec la loi de 2004. Après, le débat, aujourd'hui, il porte la République est laïque, l'État est laïque. Mais là où porte le débat, c'est est-ce que la société l'est ou ne l'est pas?
D'où la dichotomie qui ferait entre l'État et la société, qui pourrait poser ces problèmes-là.
D'accord. Oui, je pense que est-ce que la société est laïque ou pas? Est-ce que il peut y avoir une visibilité religieuse au sein de la société française ou non? Je crois que c'est ça le débat. Et où est le curseur
c'est
de ça?
Où est le point d'acceptation possible?
Absolument.
C'est le...
L'État est laïque, la République est laïque, et le consensus est fait. Il y a séparation des églises et de l'État. Les églises, les religions ont... c'est une des idées forces d'Emmanuel Macron, ont le droit d'être dans le débat public et d'exprimer leurs opinions. Mais il a bien rappelé à l'Église catholique, aux Bernardins, elle n'a pas primauté sur la République.
Pourquoi vous citez deux fois Emmanuel Macron? Parce que vous pensez que sur ce terrain-là, il réussit?
Non, c'est pas ça. C'est que, on s'est beaucoup interrogé, dans tous les cas, il y a un changement de ton. C'est pour ça que ça a questionné beaucoup les observateurs de ces questions-là. Et il y a une pensée différente de celle de François Hollande et même de Nicolas Sarkozy.
Est-ce que c'est une pensée qui pourrait ouvrir les portes d'un semblant de solution?
Je pense pas. Je pense qu'on en a encore pour des années. Bon. Malheureusement, je reviens à cette idée qu'on est dans une circonstance inédite. Donc, il faut du temps. Je crois qu'on est dans une époque très pressée. Et pour résoudre ces questions-là, il faut du temps. Et pour finir sur l'histoire du voile, je crois que la question du voile, elle est devenue emblématique, symbolique. Elle s'est chargée au fur et à mesure des ans d'une très très forte fonction symbolique. Donc du coup, c'est très virulent autour.
D'autant plus que le voile n'est pas porté par tout le monde pour les mêmes raisons.
Je crois. Alors, moi, j'aime à rappeler aussi, pour un peu calmer le jeu, si je puis dire, hisser le drapeau blanc, c'est qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes pratiquantes qui ne portent pas le voile.
Et oui. Je crois qu'on, c'est une dimension qui est rarement mise en avant.
Absolument. Mmh. Et moi, je me souviens être allée il y a un an et demi, deux ans, à une conférence de Tariq Ramadan. Donc, il y avait 200, 300 personnes dans la salle. Et j'avais essayé de faire une proportion des jeunes femmes qui étaient là, celles qui étaient voilées et pas voilées. Et en fait, j'étais arrivée à peu près à mon décompte. Il y en avait une sur trois qui était voilée. Donc, voilà, juste dire que dans un périmètre où a priori on est celui de l'islam militant, et ben la majorité des femmes, des jeunes femmes qui étaient là, elles n'étaient pas voilées. Il faut ramener aussi à leur juste proportion.
Bon, alors, on peut effectivement ramener les choses à leur juste proportion, mais on peut aussi se confronter au réel qui peut être dramatique. J'évoque les attentats commis par les islamistes radicaux se référant à Daesh. 7 janvier 2015, 13 novembre 2015, 14 juillet 2016 à Nice, bien sûr. Et là, il faut penser à tous les musulmans de France pour qui être musulman devient forcément compliqué aux yeux des personnes qui ont les raisonnements les plus simples ou qui seraient les plus intolérantes. Et peut-être que lutter contre cet amalgame-là, c'est peut-être quelque chose de très important et d'urgent dans cette thématique-là.
Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler aussi que ce sont les musulmans, là, pas en France, ils ont payé aussi leur tribut, et notamment à les populations musulmanes, notamment à Nice. Oui. Beaucoup de victimes, et même au Bataclan. Pour Charlie Hebdo, le policier. C'est-à-dire le tribut payé par les populations musulmanes, il est aussi...
Bien sûr. Et pire, en Syrie, en Irak...
Voilà,
Les
premières victimes de Daesh, ce sont les musulmans eux-mêmes. Le nombre de victimes du terrorisme islamique, il est d'abord chez les musulmans. Donc ça aussi, il faut rappeler cette donnée-là. Après, moi je crois aussi, et ça c'est quelque chose dont les populations musulmanes, les milieux musulmans, les leaders musulmans doivent prendre en compte, c'est que on a le droit d'avoir peur.
Bien sûr.
Alors la peur, elle est justifiée ou elle ne l'est pas. Il faut pas aussi repousser ça d'un geste de la main sans prendre en compte.
Bernadette Sauvager, vous disiez qu'on en a encore pour longtemps, cette question-là, qu'on n'en est pas sorti, justement, on va repartir dans quelques résonances. En 2014, notre reporter, Anaël Verzo, s'est rendu au tribunal administratif de Nice pour assister, alors, en 2015, à l'audience d'un procès opposant Fatima, une femme musulmane voilée, mère d'un enfant scolarisé, à l'école publique Jules Ferry et à la directrice de l'école. Il se trouve que Fatima avait l'habitude d'accompagner les élèves de l'école à des sorties scolaires. Mais le 6 janvier 2014, elle s'est vue refuser une sortie scolaire à la médiathèque de la ville. Elle a donc déposé un recours pour que le tribunal se prononce sur le fond pour savoir si légalement ou pas l'école avait le droit de lui refuser d'accompagner cette sortie scolaire. Écho donc d'un reportage réalisé il y a 3 ans par Annelle Verzon.
C'est dans cette école élémentaire du quartier Pasteur qu'une mère musulmane voilée s'est vue refuser d'accompagner la classe de son fils en sortie scolaire fin 2013.
France 3, 21 janvier 2014.
Une affaire qui, selon son avocat, s'inscrit dans un contexte d'islamophobie. Deux recours ont été déposés devant le tribunal administratif de Nice. Concernant les signes d'appartenance religieuse, cette affaire permettra peut-être de lever le flou qui entoure, depuis une étude du Conseil d'État, les accompagnants de sortie scolaire.
Je me trouve dans la salle de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré. Comme on n'a pas le droit d'enregistrer l'intérieur, on va sortir. Bonjour. On a retrouvé Maître Guesguez, l'avocat de la partie civile, de la femme qui avait voulu accompagner son enfant lors de la sortie scolaire avec un voile, et ce qui lui avait été refusé par la directrice de l'établissement scolaire, Jules Ferry. On sort du tribunal administratif. Merci. Alors, Maître Guesguez, vous êtes satisfait
Oui, écoutez, en fait, tout simplement, le rapporteur public a conclu en notre sens. Il demande l'annulation donc, de la décision de refus d'accès aux sorties scolaires, car il a constaté que la décision qui a été prise par l'administration était particulièrement discriminatoire. Et on ne peut pas interdire de manière générale et absolue la présence des mamans voilées aux sorties scolaires. Il faut apporter la preuve que la maman spécialement troublerait la sortie, ferait du prosélytisme ou aurait provoqué des débordements dans la sortie scolaire pour l'interdire. On ne peut pas de manière absolue et générale décider de discriminer des parents parce qu'ils sont musulmans. On attend vraiment une décision d'apaisement qui rappelle l'état du droit en France, à savoir pas d'exclusion.
Là, il y a trois jeunes femmes qui portent le voile. Vous êtes musulmane, j'imagine?
Oui, voilà. Moi je suis étudiante et on vient en soutien à la maman voilée.
Vous êtes étudiante à Nice ?
Je suis étudiante, oui, en psychologie à Nice, en quatrième année.
Là, vous portez le voile. Est-ce que vous pouvez le porter à l'université ?
Alors, à la fac, on n'a pas de problème avec ça. Malgré que M. Éric Ciotti est à l'origine de la proposition de loi pour interdire le port du voile à l'université. Mais nous, on n'a pas de problème. Enfin, personnellement, moi, ça fait 4 ans que je suis à la fac, j'ai rencontré aucun souci. Et cette année, on veut et on exige de nous de montrer nos oreilles pendant toute la durée des examens.
De montrer vos oreilles?
Oui, c'est ça. Le motif évoqué, c'est tentative de fraude. Enfin, possibilité de tentative de fraude.
Qui vous a demandé de faire ça ?
C'est le directeur de mon département. Mmh. Et des professeurs que j'ai depuis des années et des années, justement, sont venus me voir pour dire que non, ils ne prendraient pas cette décision et non, ils ne me demanderaient pas ça parce qu'ils trouvent ça injuste que cette règle soit appliquée pour nous, quoi.
Aujourd'hui, je veux le dire, c'est tous les Français, d'ailleurs, qui sont menacés par ce que j'appelle l'islamofascisme.
Christian Estrosi,
qui a décidé,
député maire de Nice,
que ce soit dans l'État islamiste, en Irak, en Syrie et ailleurs.
26 avril 2015.
Mais aussi à travers les cinquièmes colonnes et ces réseaux infiltrés dans nos caves, dans nos garages, dans
vous
les lieux clandestins.
Vous y allez fort, cinquième colonne.
Oui, j'y vais fort. C'est une troisième guerre mondiale qui nous est déclarée aujourd'hui.
Faut dire qu'ici à Nice, entre Christian Estrosi...
La cinquième colonne, la troisième guerre mondiale, en visant une communauté particulière, c'est vrai que ça aide...
Communauté musulmane.
Exactement. C'est vrai que ça aide pas, mais nous on est là pour rappeler qu'on est dans un état de droit et qu'on a des droits, qu'on est des citoyens lambda et que le droit s'applique à tous. Personnellement, le positionnement que je tiens, c'est de ne pas y prêter attention, de vivre paisiblement et d'être une citoyenne comme toutes.
Bernadette Sauvager, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre, ce reportage d'Anaël Verzo? Alors quand même, le tribunal de Nice hein, finalement a donné gain de cause à Fatima. Cette décision de justice a fait jurisprudence pour d'autres affaires, donc forcément similaires. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça?
Moi, je pense effectivement qu'il s'agit de trouver les bons modus vivendi. Effectivement, donc là, apparemment, on commence à le trouver autour de cette question épineuse des mamans qui accompagnent les sorties scolaires. Je crois que c'est contre-productif de mettre de l'anxiogène sur de l'anxiété.
Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a plein de propos qui parfois partent d'un bon sentiment de construction et qui finalement sont contre-productifs dans cette affaire-là. Et ça montre à quel point elle est compliquée.
Oui, alors je crois que c'est vrai qu'il ne faut pas ignorer un phénomène hein, qui est celui de la montée de l'identitarisme religieux. Il ne faut pas non plus avoir un discours gentil. Il y a une montée de revendications identitaires religieuses et parallèlement à ça aussi une montée du fondamentalisme religieux qui peut être un terreau culturel à quelque chose de plus radical. Les questions, elles existent, mais elles existent de façon, circonscrite. C'est les salafistes, c'est 40 000 personnes sur 5 ou 6 millions.
C'est important, ouais.
5 ou 6 millions de musulmans qui vivent ici. Il faut raison garder.
Merci, ce sera le mot de la fin, Bernadette Sauvager, journaliste à Libération, notre partenaire. Au revoir, à bientôt.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Voile Islamique, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Pierre Faucillon qui était à la technique aujourd'hui.